Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Jusqu'à 19h sur Europe 1, les débats de Panorama avec cette question, l'inquiétude au Proche-Orient pour les 130 otages restants du Hamas. Mais n'oublions pas ceux qui sont rentrés avec des traumatismes. Quel traumatisme, quel accompagnement, quelle thérapie, comment surveille-t-on notamment les enfants? De quoi peuvent-ils rêver? De quoi peuvent-ils se souvenir, peut-être tout au long d'une vie? Élément de réponse avec Marie-Estelle Dupont. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes psychologue clinicienne, auteur de « Être parent en temps de crise » aux éditions Guy Trédaniel. Bonsoir à vous Olivier.
Bonsoir.
Vous êtes de l'association de familles de victimes Vie Brisée 7 octobre et membre d'une famille dont il y a eu des otages et également malheureusement des décès dans les otages. Et nous sommes également en direct d'Israël avec Ariane Tamir. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes cousine de 6 otages du Hamas libérés fin novembre. Comment, je vais commencer par vous Ariane Tamir, comment est-ce qu'on vit ces dernières heures en Israël où justement on a appris que 3 otages avaient été par erreur tués par l'armée israélienne? Benjamin Netanyahou a parlé d'une tragédie, c'est une tragédie aussi et surtout peut-être d'ailleurs pour les familles des otages.
C'est le drame dans le drame. Vous avez dit de ma famille sur cet otage qui sont revenus, reste là-bas un homme d'environ 38 ans, le père des petits-enfants, le mari de ma cousine Adi. Donc on imagine que ça pourrait être lui. J'ai un retour là, donc c'est difficile.
On va vous le couper, vous inquiétez pas.
Et bon, il n'y a rien de pire que ça, parce que, bon, être tué dans le feu de l'action, etc., on peut comprendre, mais là, c'est... Enfin, on ne peut pas accabler les soldats, bien sûr, mais on a peur, il n'y a pas de doute.
Vous avez peur, vous dites, vous avez peur de quoi précisément ?
On a peur que ces événements font que petit à petit, tous les otages vont rentrer, mais morts, tout simplement, que ce soit d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas s'empêcher de penser que s'il n'y a pas de négociation, s'il n'y a rien, c'est comme ça que ça va petit à petit se terminer au compte-gouttes. Donc c'est une tragédie, mais c'est aussi quelque chose qui nous ouvre les yeux, qui nous dit faut pas attendre, c'est de plus en plus fragile, de plus en plus difficile. On a peur des nouvelles, oui.
Racontez-nous les otages de votre famille qui ont été libérés à la fin du mois dernier, à la fin du mois de novembre. Comment vont-ils dans... comment se portent-ils?
Ils ont été libérés le deuxième jour, ce fameux samedi où ça a été tellement compliqué. C'était 3 femmes, 3 enfants. Et leur grande chance, si on peut dire, dans toute cette tragédie, c'est de n'avoir pas été séparés et d'être restés dans un appartement sous la garde de quelques personnes qui n'étaient pas particulièrement, sadiques ou quoi. On les gardait, point. Ce qui n'est pas très drôle dans une grande pièce. Mais quand même, ils étaient ensemble et c'est une famille forte, unie. Ceci dit, quand ils sont revenus, la première chose qu'on a dit à ma cousine, celle de mon âge environ, qui a 65 ans, c'est lui apprendre la mort de son mari qu'elle ne savait pas. Elle le pensait prisonnier comme elle. La mort de sa sœur, de son beau-frère. Donc vous voyez le choc immédiat à la sortie déjà. On lui donne une nouvelle carte d'identité toute prête où c'est marqué veuve. Et là, c'est concret tout d'un coup. Mais comment dire, il fallait le faire, il fallait que ce soit immédiat, sauf que comment ils surmontent tout ça? Ben, toujours en restant ensemble. Ils ont reçu une grande maison tout près de chez nous, enfin c'est du provisoire, hein. C'est pour quelques mois.
Ils ont été relogés.
Ils restent ensemble dans la région de Tel Aviv en fait. Au départ, ils dormaient dans la même pièce, alors que c'est une maison où il y a plusieurs chambres à coucher. Les enfants chuchotaient. Et puis petit à petit, si on les voit tous les jours presque, on habite tout près. Les enfants, si vous les voyez comme ça, vous n'imaginez pas qu'ils ont été... C'est des enfants comme les autres qui jouent, qui parlent maintenant haut, enfin, et les femmes, c'est autre chose. Déjà, il y a... le mari qui est resté là-bas, ou le gendre pour ma cousine, et puis l'avenir, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. À quelle école inscrire les enfants? Est-ce qu'il faut les inscrire ou pas? Enfin,
encore beaucoup d'interrogations.
Oui, bien sûr, c'est très compliqué. Oui.
Merci beaucoup de votre témoignage, Ariane Tamir, et merci d'avoir été en direct sur Europe 1 de Tel Aviv, où vous vous trouvez. Marie-Estelle Dupont, je reprends quelques mots du témoignage d'Ariane Tamir. D'abord, les enfants, quand vous les voyez, vous n'imaginez pas qu'ils ont vécu au Tâche, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de quoi, de carapace, de mur, de...
Alors en fait, on n'est pas programmé pour vivre des expériences aussi violentes, aussi extrêmes, aussi anxiogènes que des prises d'otages. Notre cerveau n'est pas, on n'est pas programmé pour vivre ça. Donc il y a un mécanisme de survie qui est prévu par le cerveau, c'est que face à un stress extrêmement violent qui se prolonge, il va y avoir un mécanisme neurobiologique de dissociation, c'est-à-dire que tout d'un coup, toutes les hormones de stress vont être encapsulées et on va produire, notre corps va produire en fait, une sorte de drogue anesthésiante qui est de la kétamine et de la morphine. Et en fait, ça va encapsuler l'expérience traumatique. Et on va avoir l'impression, quand elles sortent, ces jeunes filles qui ont parfois, alors là, c'est pas le cas de ces enfants, mais il y a des jeunes filles qui ont été violées, mutilées sexuellement, etc. Et elles sortent et on a l'impression que il ne s'est rien passé. Sauf que les gens qui connaissent le trauma ou qui ont été traumatisés voient bien que leur regard... est ailleurs quand même. Et donc c'est un phénomène de dissociation qui permet que l'être humain survive à des événements qui sont intolérables. Donc il ne faut surtout pas se fier à tout va bien, ils jouent, ils rigolent, ils parlent, donc
il faut les surveiller, il faut les questionner, qu'est-ce qu'on fait ?
Il y a deux choses qu'il ne faut pas faire, c'est se laisser berner par le fait qu'on pense que tout va bien parce qu'apparemment il n'y a pas de symptômes, et le deuxième risque, aujourd'hui les études le montrent, il ne faut surtout pas faire le débriefing psychologique qu'on faisait autrefois à l'ancienne, avec tout un tas de rafales de questions très intrusives, et alors parfois il y a des situations de trauma où la police, le médecin, le psychologue, l'avocat, etc., etc., va poser des questions à une personne traumatisée en rafale. Il ne faut surtout pas le faire parce que là, vous faites rentrer la personne dans la boucle traumatique. Donc, ces enfants, il faut simplement être disponible pour le moment où la parole va venir sur quelque chose, l'accompagner en... Quand il commence à partir dans trop de détails et à se remettre en hyperactivation, en angoisse, lui dire maintenant c'est terminé, on est par exemple le 15 décembre, tu es à l'abri, tu es dans la maison avec ta maman. Donc vous redonnez des éléments extrêmement concrets de la situation traumatique est derrière. Là, tu es en sécurité, tu vois, là tu es avec maman, tu vas aller te coucher dans cette pièce. Donc vous le réenveloppez, vous ne demandez pas de détails.
C'est pour ça qu'ils restent ensemble, elle a dit qu'ils restaient
alors,
ensemble parfois
ils ont
même
ce
dans
réflexe de survie de rester ensemble parce que c'est d'être ensemble dans leur cerveau qui leur a permis de survivre. Ils ont associé le fait d'être comme des petits chats collés et le fait de pouvoir surmonter ce trauma. Donc c'était très important pour eux de rester ensemble. Et puis avec le temps, on va voir les reviviscences traumatiques, les conduites d'évitement, tout ce qui finalement au bout d'un mois va rester, c'est au bout d'un mois qu'on sait s'il y a un vrai véritablement un stress post-traumatique, et là ça va être pris en charge progressivement avec des techniques très spécifiques et que les Israéliens connaissent très bien pour prendre en charge ce trauma.
Olivier, comment ça s'est passé dans votre famille et dans les familles des autres avec lesquelles vous avez eu des liens? Et je rebondis sur ce que vient de dire Marie-Estelle Dupont sur le fait que il faut éviter les questionnements en rafale, et pourtant on peut pas faire autrement, on a envie de savoir ce qui s'est passé, puis on a besoin aussi, j'imagine, pour les services secrets israéliens d'identifier les ravisseurs.
Les ravisseurs, on les connaît, hein, c'est les assassins du Hamas, de ce côté-là.
Oui, mais après, c'est
après,
de l'identité.
Savoir qui, je crois, d'après ce que j'en sais, les Israéliens ont fait très attention à l'arrivée des otages, hein, à ce qu'ils soient vraiment immédiatement et seulement avec leur famille proche, hein, quand ils en avaient encore, parce que certains ont découvert que leur famille avait été assassinée. Il y avait des orphelins qui sont venus, qui ont découvert la mort de leurs parents, entourés par un médecin ou un ou une psychologue.
Alors, c'est très
des choix, ils ont fait très attention en Israël. Ils font très attention à ça. Alors, pour ce qui est de ma famille, donc les deux otages qui ont été libérés, donc Erez, 12 ans, qui est un garçon de 12 ans, qui a eu 12 ans à Gaza, et Sahar, sa sœur, ils ont été libérés. On a vu, quand vous parlez de leur solidarité, on a vu une photo quand ils sortent, quand ils vont vers l'ambulance, ils tiennent tous les deux par la main, elle est très émouvante. Hein, je m'étais dit, c'est la grande sœur qui protège son petit frère, et peut-être le petit frère, la grande sœur, en définitive. Manifestement, ils se sont protégés l'un l'autre, ils étaient très solidaires parce qu'ils étaient enfermés ensemble, 52 jours et nuits sans sortir, sans voir le soleil. Leur situation, elle est difficile. En l'occurrence, ma cousine, qui est leur mère, Hadass, en parle bien. Elle est en disant que, comme vous le disiez, madame, il parle beaucoup. Ils parlent, ils racontent, sans qu'il soit toujours nécessaire de leur demander.
Ah, donc ils ont ce besoin spontané de raconter.
Semble-t-il, ils parlent. C'est pas du tout des interrogations. Et ma cousine Hadass, qui a été une des porte-paroles des familles d'otages, je pense qu'elle est suffisamment ferme pour ne pas accepter accepter, si c'était le cas, qu'ils soient interrogés trop tôt par l'armée, la police ou qui que ce soit. Mais on imagine leur situation. D'abord, ils ont vu Aniros qui a été entièrement détruit, le kibbutz qui a été entièrement détruit. Ils ont vu, beaucoup de gens mourir devant eux, amenés du kibbutz jusqu'à Gaza. Ils ont vu des cadavres. Ils pensaient que leur mère, qui était Aniros, et leur frère aîné, 19 ans, qui était chacun dans une maison, étaient morts eux aussi. Ils ont vu leur père se faire battre, semble-t-il. Ils l'ont vu blessé à Gaza, et leur père est toujours otage. Donc ils ont cette inquiétude qui fait que, visiblement, enfin, ça se comprend, leur trauma est d'autant plus fort que leur père n'est pas revenu. Et je me permets de rappeler qu'ils ont découvert à leur retour de Gaza que leur grand-mère Carmela, donc la femme de mon cousin, a été assassinée, que leur cousine Germaine, qui a 12 ans, qui aurait dû avoir 13 ans, Noya a aussi été assassinée. Ce qui, évidemment, ajoute directement à leur trauma.
Marie-Estelle Dupont, on dit souvent pour les enfants et les préadolescents qu'il faut faire très attention aux écrans, que par le fait que ce soit d'abord un écran et puis aussi parce que le contenu, ils peuvent arriver sur n'importe quoi, sur différents sites et que ça peut les traumatiser. Là, c'est pas des écrans, c'est la réalité. Et ils se prennent des images en pleine face, si j'ose dire, de manière un peu triviale, qui sont des images qui restent ou qui peuvent être effacées avec le temps. Comment on fait ?
Alors, en fait, le problème, c'est que ces images sont tellement violentes et effractantes qu'il va y avoir une difficulté à les faire passer normalement dans ce qu'on appelle le système limbique, qui est la partie de notre cerveau qui gère les émotions. Ça risque de sidérer la personne. Et donc, ça a du mal à passer en ce qu'on appelle la mémoire autobiographique, c'est-à-dire que la personne peut mettre l'événement complètement de côté, le dissocier complètement, et n'arrive pas à le raconter. Manifestement, ces enfants... ont la capacité de raconter, c'est-à-dire on n'a pas le phénomène d'amnésie traumatique, sans doute parce que comme c'est un trauma collectif, tout le monde sait que c'est arrivé, donc personne ne nie le fait que c'est arrivé, ce qui leur permet déjà de ne pas passer par l'amnésie traumatique. En revanche, ils ont un trauma extrêmement complexe, puisqu'ils ont le trauma de leur prise d'otage, le trauma de la découverte en rentrant que leur grand-mère est morte, et le trauma persistant, c'est-à-dire que le trauma n'est pas derrière, ils sont dans le trauma persistant de l'incertitude du sort de leur père. Donc en fait, leur prise en charge ne peut pas se faire comme si la totalité de l'événement traumatique était derrière, tant que leur papa, tant qu'ils ne savent pas si leur papa revient, si leur papa est décédé. Donc, si vous voulez, l'inscription chronologique des événements traumatiques, malheureusement, elle n'est toujours pas fermée. Donc on peut leur demander de raconter ce qui a été le plus difficile pour eux, mais sans les faire rentrer dans les détails, et puis vraiment les aider à gérer le fait de sursauter, les reviviviscences au quotidien,
mais avec un accompagnement,
avec un bruit.
Pardonnez-moi la question triviale, Candide, par des cachets,
problème, c'est qu'on aurait tendance à donner des anxiolytiques, et si vous voulez, au niveau de la chimie cérébrale, les anxiolytiques vont plutôt retarder le moment où les événements traumatiques sont digérés. Donc si on peut éviter les anxiolytiques, sauf cas extrême, quelqu'un qui fait vraiment une attaque de panique et on n'a pas le choix, mais si on peut éviter, il vaut mieux utiliser des méthodes avec des psychologues bien formés aux méthodes type EMDR, la technique du papillon notamment, qui permet de raconter l'événement en
EMDR,
tapotant.
EMDR, pardonnez-moi.
C'est en fait de refaire passer l'événement en enlevant la charge émotionnelle de l'événement. Et par exemple, la technique du papillon, qui consiste à se tapoter les épaules en racontant un événement traumatique, permet de faire baisser la charge anxieuse, et que quand l'événement revient à la mémoire, la personne ne passe pas en hyperactivation, c'est-à-dire qu'elle ne bascule pas dans une crise de panique. Donc il y a vraiment des techniques de prise en charge du trauma que les Israéliens connaissent mieux que personne, qui sont très pointues. Il y a beaucoup de psychologues formés au psychotrauma. Il faut essayer plutôt de faire des séances comme ça, courtes et répétées, avec de l'EMDR, etc.
Et si on peut éviter les médicaments.
Bien fait. Ouais. Et si possible, éviter les questions intrusives, le déni et les médicaments.
Olivier.
Alors effectivement, de ce que vous dites, vous parlez de crise de panique. Alors je ne sais pas s'ils ont des crises de panique, RS et Sahar, mais clairement, ils ont peur. Leur mère le dit. Ils ont peur. Ils ont peur du noir. Ils ne veulent pas dormir seuls. RS, notamment, qui a 12 ans, a peur des portes, c'est-à-dire qu'il y a une porte fermée. Il pose la question, d'ailleurs, à Tel Aviv. Il dit clairement, est-ce qu'il n'y a pas un terroriste derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous prendre ? Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste comme vous, mais c'est vrai comment ils expriment leur crainte. Ils sont sont très entourés par leur mère, par leurs frères et leurs sœurs aînées, mais ils ont une inquiétude forte. Et même Erez Sahar, qui a 16 ans, dit à sa mère « j'ai l'impression que j'ai 6 ans ». Par moments, j'ai peur, comme quand j'étais petite, je me souviens d'avoir eu peur. Comme
oui,
peur,
alors, quoi. Ils ont été libérés mi-décembre.
Non, ils ont été libérés il y a trois semaines. C'était la quatrième, le quatrième soir de trêve. Je pense que lundi prochain, c'était un lundi soir, ça fera trois semaines.
Mmh. D'accord. Alors, on parle d'un syndrome de stress post-traumatique au bout de 30 jours. Donc si ces symptômes persistent au bout de 30 jours, effectivement, il faut vraiment prendre en charge le syndrome de stress post-traumatique. Là, on est encore dans des symptômes qui sont normaux, c'est-à-dire qu'elle a été hyperactivée au niveau de son cortex cérébral très récemment. Si la labilité de l'humeur, si l'altération cognitive, si les croyances qu'il y a peut-être des terroristes derrière la porte de manière générale, si l'altération du système nerveux persiste, il y a un syndrome de stress post-traumatique et elle sera prise en charge.
Et alors, très clairement, Adas, leur mère en parle, c'est-à-dire qu'elle le dit clairement, elle sait que ce sera long, qu'il faudra les prendre en charge, qu'il faudra les suivre, les aider, voire les soigner, hein, même du côté de la mère, hein, il y a une prise de conscience très claire. Il y a aussi autre chose qui peut aussi accroître leur inquiétude, c'est que ils n'ont plus de maison, hein, le kibbutz Niro a brûlé, donc ils ne sont pas chez eux, hein, ils sont passés pendant un temps très rapide.
Ariane Tamir disait qu'une partie de sa famille avait été relogée.
Voilà, relogée, mais c'est tout, ça veut dire que quelqu'un leur a prêté un appartement ou à Tel Aviv probablement, ou le gouvernement, mais la plupart des familles, elles sont dans des hôtels à la Mer Rouge, hein, ou à Eilat, où elles disent, hein, enfin je dirais, je vais rester poli, où elles tournent en rond dans l'hôtel à s'embêter. Hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien à faire, elles ne travaillent pas, ils n'ont plus de maison, plus de travail. Et on peut penser aussi que c'est une inquiétude pour le futur.
Ça, c'est,
hein,
intéressant, c'est intéressant. Est-ce qu'il faut se remettre au travail, Marie-Estelle Dupont? On dit souvent que pour des choses beaucoup moins graves, en l'occurrence des chutes, etc., il faut surtout se remettre et repartir. On dit souvent aux gens qui ont mal au dos qu'il faut surtout ne pas rester allongé, il faut marcher, il faut faire de l'exercice. Est-ce que dans des cas comme ça, il faut occuper son cerveau à aller travailler pour essayer d'évacuer? Vous avez prononcé un mot tout à l'heure qui m'a presque effrayé. Vous avez dit qu'il y avait des personnes qui étaient sidérées. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de la sidération?
Oui, bah, la sidération, c'est quand l'événement n'est pas métabolisable. Et donc, oui, on est sidéré quand on voit son père ou sa sœur se faire violer, etc. Il y a un moment de sidération. C'est-à-dire que l'amygdale, qui est un petit endroit du cerveau en fait, qui gère la peur, est complètement saturé. Mais ensuite, la personne, elle retrouve... L'être humain a des capacités très importantes en fait, de retrouver une forme d'homéostasie et d'équilibre. Donc, c'est symptômes aigus, ils vont aussi s'atténuer avec le temps. Quand vous me demandez s'il y a une recette ou une règle générale de se remettre au travail, etc., là, on n'est pas dans une chute de cheval, en fait. Hein. On est vraiment dans un éclatement total des repères, avec une incertitude, majeure, des traumas complexes. Ça dépend évidemment de l'âge de chacun. Ça dépend aussi du contenu du trauma. Quand il y a eu des sévices, c'est quand même pas pareil que quand il n'y a pas eu d'agression, notamment sexuelle. Ça va vraiment dépendre de l'âge, notamment des adolescents. C'est important. En tout cas, on sait qu'au niveau des images traumatiques, juste après la scène traumatique, et c'est pour ça que les Israéliens savent prendre en charge le tout de suite après, et c'est très important, il y a un jeu qui s'appelle le jeu de Tetris, que vous connaissez peut-être. On a observé dans les études qu'avec un jeu visio-spatial, ça peut être Tetris ou autre chose, hein, 20 à 30 minutes par jour chez une personne qui vient d'assister à quelqu'un qui se fait tuer sous ses yeux, quelqu'un qui étouffe sous ses yeux, 20 à 30 minutes par jour, faire un exercice visio-spatial va permettre en fait au cerveau de ne pas être envahi par l'image traumatique. Alors ça paraît complètement idiot, mais c'est vraiment des études neuroscientifiques qui l'ont montré. Donc le fait de donner un autre contenu et d'autres repères, et par exemple le fait de ne pas avoir de maison, d'être à l'hôtel, est plutôt un facteur aggravant du stress post-traumatique. Parce que c'est des gens qui ont besoin de se refixer sur des repères extrêmement concrets et si possible sur une routine. C'est pas tant le travail qu'une routine. Ça peut être de la couture, ça peut être quelque chose qui va fixer en fait votre attention et permettre petit à petit au corps de faire baisser les manifestations anxieuses.
Olivier.
Alors on peut penser qu'ils seront rescolarisés, hein, parce que tout en Israël, on a pratiquement 5 ou 6% de la population qui aujourd'hui est réfugiée, la population du sud et la population du nord, hein, et qui ont été pour les enfants rapidement rescolarisés. Sur ces deux enfants, vous parliez de sévices, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, hein, notre cousine ne veut pas nous le raconter, clairement, et je ne suis pas sûr d'avoir envie de le savoir, hein, pour être franc, mais elle parle de situations très difficiles. Il est probable, on n'en est pas certain, mais qu'ils aient été en captivité avec le petit Ethan Yahalomi, qui était un jeune garçon du même âge qu'Erez, qui était également à Nîmes, qui vivait à Nîmes et qui a été libéré en même temps qu'eux. Et Ethan Yahalomi, sa famille a raconté qu'il avait été battu plusieurs fois à 12 ans et que on l'avait obligé, le Hamas l'avait obligé à regarder les vidéos qu'ils avaient tournées de toutes les horreurs qu'ils avaient perpétrées le 7 octobre. Alors, je ne sais pas si c'était le cas de mes petits cousins Erez et Sarr, j'espère que non, mais en tout cas, ils ont vécu des situations très difficiles. En même temps, vous parliez de jeux et de Tetris, que je connais effectivement, qui est un jeu
mondialement connu.
Et vous le disiez, il y a des moments où on a l'impression qu'ils ressemblent à des jeunes comme les autres. Hein. Juste un petit mot pour vous faire peut-être sourire, ou en tout cas, on a vu une vidéo où les deux sœurs ont Gaïa, la sœur aînée de 21 ans, qui était à Tel Aviv, elle, hein, le jour de l'attaque, et qui était extrêmement inquiète aussi, puisque tous les autres membres de sa famille, son père, sa mère, ses trois frères et sœurs étaient à Nîmes, joue avec sa sœur et elle essaye de la porter, faire l'avion. C'est un truc que je connais pas, moi je suis pas du tout spécialiste des figures de danse ou de choses comme ça. Elle essaye de la porter et elle lui dit, et les deux éclatent de rire, et elle lui dit, ah bah dis donc toi, t'as grossi à Gaza. Alors qu'en fait on sait très bien qu'elle a été mal nourrie, qu'ils ont très mal mangé, et on les voit toutes les deux sourire. Je pense pas que ce soit du déni, mais on se dit, nous, naïvement, au moins on a encore un peu d'humour, un peu de sourire et de une vie avec beaucoup de guillemets, hein, bien évidemment.
Non, ce dont vous parlez, c'est en fait la croissance traumatique. Et les Israéliens ont beaucoup étudié justement les facteurs de croissance traumatique. C'est comment un être humain qui est confronté à quelque chose qui est insoutenable, dans 75% des cas, s'il a des facteurs de croissance traumatique, c'est-à-dire des liens affectifs forts, des ressources spirituelles, qu'il a un vécu antérieur qui a été positif et qui lui a donné vraiment des repères et de l'espérance, va finalement réussir à transformer ce vécu avec à ne pas être effondré après, mais à trouver des ressources. Et c'est pour ça que les Israéliens accentuent beaucoup la prise en charge du trauma, non pas sur ce qui a été vécu négatif, mais sur les ressources de la personne. C'est-à-dire qu'elles font souvent des enfants qui sortent de ça des héros. Tu as forcément été un héros si tu as réussi à survivre à quelque chose d'aussi abominable. Et je crois qu'on a beaucoup de leçons à en tirer, parce que quand quelqu'un est traumatisé face à nous, on doit mettre l'accent sur les ressources qui lui ont permis de faire face à ça. Dans l'actualité, là, Alex Batty, sa ressource, c'était sa grand-mère, plutôt que de le connecter en détail à l'horreur de ce qu'il a vécu.
Le jeune Britannique qui a été retrouvé 6 ans après et qui repart en Grande-Bretagne.
C'est les ressources qui t'ont permis de le surmonter qui sont plus importantes que les détails de l'horreur de ce que tu as vécu. C'est vraiment ça qu'on doit faire, nous, quand on a autour de nous des gens traumatisés.
En tout cas, les combats continuent. Je viens d'apprendre par une dépêche AFP qu'un soldat israélien a été tué dans le nord d'Israël, cette fois-ci par un véhicule aérien ennemi. On n'en sait pas plus pour l'instant. En vous entendant parler, notamment du Tetris, et c'est peut-être une question aussi pour vous, Olivier, de savoir exactement si vous avez des informations sur ce qui s'est passé, comment c'est pendant, c'est-à-dire pendant la captivité. On se souvient tous de ce merveilleux film La vie est belle avec Roberto Benigni, qui raconte en fait à son fils, alors qu'ils sont dans les camps nazis, que tout ça est un jeu, que c'est qu'on va bientôt sortir, et puis à chaque fois il raconte des histoires qui sont absolument pas. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça s'est produit? Est-ce qu'on a essayé de dire aux enfants, ou en tout cas aux plus jeunes, que tout ça est un, que ça va passer et que c'est un jeu? Ou est-ce que les enfants aujourd'hui, parce qu'ils sont beaucoup plus précoces en 2023, ont bien compris que c'était une situation tout à fait vraie?
Ils ont compris immédiatement. Ils le disent. Hein. Je rappelle qu'ils ont vu, ils étaient à l'entrée du kibboutz, hein, là où ils habitent, donc ils ont dit qu'ils ont vu entrer des centaines de terroristes et d'habitants de Gaza. Ils ont vu brûler plusieurs maisons, ils ont vu des cadavres sur la route de Gaza, ils ont vu leur père se faire battre, ils l'ont vu blessé. Ils sont pas sortis.
On peut pas leur raconter d'histoire.
Ils sont pas partis pendant 50 jours. Ils mangeaient très mal. Ils devaient parler à voix basse. Je pense que la réalité, ils l'ont prise solidairement, visiblement, mais ils l'ont prise de plein fouet.
Marie-Estelle Dupont, un dernier mot sur l'accompagnement de ces enfants. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On a dit alors pas de médicaments, un accompagnement.
Alors, quand je dis pas de médicaments, je suis pas médecin, dire pas de médicaments. Je dis juste qu'au niveau neurobiologique, les anxiolytiques ont plutôt tendance à retarder l'assimilation de l'événement traumatique. Donc quand on peut utiliser d'abord des méthodes type EMDR, un débriefing qui soit bien fait au niveau psychologique, c'est préférable. Évidemment, si la personne ne trouve pas le sommeil pendant des jours et des jours, évidemment qu'on n'est pas sadique, évidemment qu'on l'aide avec des médicaments. Mais le soutien social, le fait de redonner des repères très simples à la personne, d'accueillir la parole mais de toujours focaliser sur ce qui lui a permis de s'en sortir, c'est très important. Des tâches visio-spatiales, enfin ce que vous appelez le Tetris, en fait, c'est faire des tâches visio-spatiales qui permettent de centrer le cerveau sur autre chose. Et puis, essayer d'éviter effectivement les questionnements intrusifs répétés qui mettent les gens dans les boucles traumatiques.
Le retour de leur père, Le retour de leur père qui vraisemblablement serait sur lequel on n'a aucune prise aujourd'hui, mais qui serait certainement extrêmement positif.
Pour de vos témoignages, merci de vos témoignages Olivier et Ariane Tamir qui tout à l'heure était en direct d'Israël. Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont de nous fournir vos explications.